Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Philippe Bouissou, maire PCF d'Ivry-sur-Seine. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, j'aimerais d'abord vous faire réagir au plan du gouvernement sur les coupures électriques qui pourraient avoir lieu cet hiver. En tant que maire, est-ce que vous êtes associé à ce plan? Est-ce que vous avez reçu des informations de la part du préfet pour vous préparer à ces délestages qui potentiellement concernent les services publics, notamment les écoles de votre ville?
Absolument. Alors oui, on a été réunis il y a quelques jours par la préfète du Val-de-Marne, mais pour l'instant, les éléments dont nous disposons ne nous permettent pas d'anticiper la moindre crise. On sera, comme tous les habitants, prévenus la veille d'une éventuelle coupure et d'un éventuel délestage. Et nous savons que nous avons sur nos territoires des clients prioritaires pour l'électricité. Je pense notamment aux hôpitaux, aux casernes de pompiers, aux commissariats, qui, eux, ne seront pas du tout coupés, hein, ils vont avoir une continuité de service. Et donc, les clients privés qui vont être sur les mêmes lignes de diffusion d'énergie que ces lieux prioritaires ne seront pas non plus coupés. Et par exemple, j'ai demandé à ce qu'on m'indique au minimum une école qui serait sur une ligne prioritaire pour que je puisse anticiper l'accueil des personnels prioritaires, c'est-à-dire que si demain les écoles ferment, il faut malgré tout accueillir, et c'est normal, accueillir les enfants des personnels hospitaliers, accueillir les enfants de la police, accueillir les enfants des personnels de secours, et je suis incapable de dire quelle école pourra subsister dans le cadre d'un délestage, donc ça c'est très embêtant. En fait, on a très peu de choses. Je ne sais pas non plus quels sont les carrefours avec des feux tricolores qui pourraient éventuellement être sur une ligne prioritaire et ceux qui ne le sont pas. Donc, où vais-je devoir envoyer les agents de surveillance de la voie publique pour aider à ce qu'il n'y ait pas d'accident de voiture? On ne le sait pas non plus. Donc, en fait, comme tout ça est tenu secret pour des raisons de sécurité et que même avec une clause de confidentialité, on ne le dit pas au maire, on va être très, très en difficulté pour improviser un soir pour le lendemain matin ou un matin pour le soir, ce type de délestage. On va être vraiment très en difficulté. Ce que j'espère, en étant optimiste et positif, c'est qu'il n'y aura pas de délestage, parce que sinon on risque d'être confronté à des très grosses difficultés.
Alors, une augmentation de 15% du coût de l'électricité et du gaz est prévue au début de l'année, une augmentation qui s'ajoute à l'inflation des produits alimentaires. D'abord, de quelle manière votre ville est-elle affectée? Est-ce que pour payer les factures de la ville d'Ivry-sur-Seine, vous allez réduire certains investissements? Et puis, quelle est la conséquence de cette hausse pour les habitants les plus fragiles de votre ville?
Alors, c'est très, très important. Pour vous donner un exemple, si je ne prends que les bâtiments communaux, les écoles, les gymnases, les bâtiments administratifs, les maisons de quartier, etc., etc., en 2021, le coût total des trois flux d'énergie, gaz, électricité et chauffage urbain, était de 3,2 millions, hein, en 2021, dans une année, je dirais, normale, du point de vue de la consommation. En 2023, ça pourrait monter jusqu'à plus de 7 millions d'euros. Donc c'est un différentiel de 4 millions supplémentaires qui pourrait, je parle au conditionnel, car aujourd'hui, le chiffre que vous avancez de 15% d'augmentation, il est vrai globalement pour le réseau de chauffage urbain, il est un peu plus haut pour le gaz, mais pour l'électricité, ce que nous annonce notre groupement de commandes, c'est qu'on pourrait être entre 27% d'augmentation et 132% d'augmentation. Donc là, ce serait totalement énorme. Et les chiffres que j'annonce sont ceux qui passent avec 27% d'augmentation de l'électricité. Donc on est vraiment confronté à un sujet gravissime. Alors, on essaye de mettre en place un plan d'économie, hein, pour le budget communal, avec des réductions de chauffage, avec des regroupements de centres de loisirs, avec une réduction de la période de chauffe qu'on a démarré un peu plus tard, mais le climat nous a aidé de ce point de vue-là, mais qu'on voudrait interrompre un peu plus tôt aussi, c'est-à-dire qu'on voudrait interrompre le chauffage au mois d'avril, alors que d'habitude on le fait au mois de mai, et on va aussi peut-être réduire un peu l'éclairage public. On a réduit, on n'a fait aucun éclairage de Noël là, pendant la période des fêtes, donc on essaye de réduire ces 4 millions supplémentaires le plus possible. Et bien évidemment, ça va avoir des conséquences terribles pour les habitants sur ce à quoi la ville elle est confrontée sur son budget communal par rapport aux équipements communaux et aux services publics. Les habitants vont évidemment le ressentir aussi, soit sur leur charge de chauffage, soit directement sur leur facture d'énergie et d'électricité. Et il y a dans la population aujourd'hui, de ce point de vue-là, une grosse angoisse. Et c'est pour ça qu'on veut essayer de réduire le moins possible les services publics pour pas que les habitants aient la double peine, celle de la facture de fin de mois qui va être terrible à porter dans le contexte où on est et qui s'ajoute, comme vous l'avez dit, à l'inflation, notamment sur le prix des denrées alimentaires. Tout le monde constate une augmentation très forte de la note de course. Et donc, on va essayer de faire en sorte qu'en plus, ils n'aient pas cette double peine d'avoir des services publics réduits dans cette période où ils en auront grandement besoin, notamment les catégories les plus populaires dans nos communes.
Alors, de quelle manière, Philippe Bouissou, la ville d'Ivry soutient-elle les étudiants qui sont de plus en plus confrontés à la précarité alimentaire ?
Complètement. En plus, nous avons, entre guillemets, la chance d'avoir sur notre territoire une nouvelle résidence du Crous, hein, qui est une résidence évidemment sociale, qui accueille des jeunes de catégories populaires qui viennent faire leurs études à Paris et qui sont donc, eux, boursiers et très directement confrontés à des difficultés, notamment alimentaires. C'est pour ça qu'on a fait avec des associations locales plusieurs distributions alimentaires. On en a fait une à l'Hôtel de Ville, notamment la semaine dernière, où chaque étudiant s'est vu remettre un collier. On a accueilli 200 étudiants dans cette distribution qui était très satisfait de pouvoir accéder à des denrées. Notre CCAS aussi est très attentif aux demandes particulières des étudiants. Et il y a eu, avec des associations locales, plusieurs distributions de denrées pendant toute une période. Là, tous les samedis matins, dans les 4 maisons de quartier de la ville, il y avait des distributions alimentaires pour les étudiants. Et on a pu voir à quel point cette catégorie de la population qui a été la première frappée par la crise du Covid, parce que les petits boulots qui permettent, entre guillemets, de mettre un peu de beurre dans les épinards, se sont pour beaucoup interrompus et ont mis ces étudiants dans une précarité encore plus grande que celle qu'ils connaissaient auparavant, quoi. Aujourd'hui, le marché de l'emploi est terriblement bouché pour eux et c'est quelque chose de tout à fait terrible. Donc on essaye de les aider comme on peut, notamment au travers de ces distributions de denrées.
Philippe Bouissou, les Franciliens vont subir une augmentation du prix du pass Navigo qui va passer de 75 à 84 euros. Vous avez participé au mouvement Stop Galère qui vise à dénoncer la galère vécue par les Franciliens dans les transports en commun. Pour aller à Ivry-sur-Seine, par exemple, sur la ligne 7, il faut attendre parfois 15 minutes en pleine journée. Comment réagissez-vous à la hausse du prix du pass Navigo et que faire finalement pour avoir des transports en commun qui fonctionne normalement?
Voilà, alors là, je suis tout à fait scandalisé par cette hausse du prix du pass Navigo qui n'a strictement rien à voir avec la qualité des transports en commun et avec leur amélioration. Tout le monde est prêt à accepter des augmentations quand c'est pour une amélioration du service. Or, ces 3 dernières années, je vais le dire comme ça, le service public du transport n'a eu de cesse de se dégrader, notamment sur nos territoires les plus populaires, où justement nous persistons à être une ville qui prétend accueillir les milieux populaires aux portes de la capitale, et on voit à quel point les transports en commun sont essentiels, notamment si on veut parvenir à améliorer la qualité de l'air dans la zone dense de la métropole. Il faut absolument que les transports en commun soient, d'une part, économiquement accessibles au plus grand nombre. Il faut également les améliorer, que ceux qui existent, par exemple, vous citez la ligne 7, c'est vrai qu'elle a des difficultés de fonctionnement quasi quotidiennes, mais on pourrait parler aussi du RERC. Et c'est une véritable aventure en ce moment de pouvoir se rendre à Paris avec le RERC. Il y a des interruptions de service, il y a des trains supprimés. Et que dire du réseau de bus francilien qui est aujourd'hui en très grande difficulté. Et c'est pour ça que nous, on se bat à Ivry, notamment pour le prolongement de la ligne 10 du métro jusqu'à notre ville. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est vraiment le développement, la modernisation et l'amélioration des transports en commun. Et le fait que les gens n'aient plus à passer des heures dans des transports qui sont inconfortables, bondés, avec des rythmes de passage qui sont insuffisants. Et très honnêtement, tous les Ivriennes et tous les Ivriens que je croise et qui sont amenés au quotidien à faire des grands déplacements pour se rendre sur leur lieu de travail, c'est un objet de souffrance et de dégradation des conditions de vie quotidienne. Alors si en plus ils doivent payer plus cher dans un moment où se cumulent sur leur dos toutes les augmentations et toute l'inflation, c'est vraiment quelque chose de terrible. Et c'est pourquoi j'étais à cette manifestation devant le siège de la région l'autre fois avec beaucoup de collègues élus pour protester contre cette augmentation.
Philippe Bouissou, dans votre ville, des personnes sans-abri vivaient sous le pont Mandela. Quelle solution avez-vous trouvé pour les reloger ?
Alors, il ne me revenait pas de trouver des solutions pour les reloger. En tout cas, depuis le mois de juin, c'est effectivement un campement. C'est agrandi petit à petit, au fur et à mesure, d'ailleurs, des expulsions qui ont eu lieu sur d'autres territoires. Je pense notamment à tous ceux qui ont été évacués de la place de la Bastille. Et on a été confrontés à la présence sur notre territoire de 400, à peu près jusqu'à 400 personnes, 400 jeunes hommes, très jeunes, tous en recours auprès des tribunaux administratifs parce que leur minorité n'avait pas été reconnue en première instance par les services d'aide sociale à l'enfance, notamment des départements de Paris, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Donc là, ce qu'on a fait, c'est le minimum humanitaire, je serais tenté de dire. On a installé des toilettes, on a mis des bacs poubelles, on a mis de l'eau courante pour qu'ils puissent avoir accès, mais surtout, on a exigé dès le début la mise à l'abri de ces jeunes. J'ai écrit au préfet de région, j'ai écrit à la préfète du département, depuis mes premiers courriers d'alerte datent du mois de juillet dernier. Vous voyez à quel point ça a duré longtemps. Et on s'est mis en contact avec les associations qui les accompagnent, notamment l'association Utopia 56. Et devant le silence de l'État, vraiment le silence de l'État et le silence des départements que j'ai cités tout à l'heure, nous avons organisé une manifestation devant la préfecture du Val-de-Marne à laquelle il y avait environ 300 personnes. Plusieurs parlementaires du département d'ailleurs nous accompagnaient dans ce moment-là. On a enfin, à cette occasion, été reçus par la préfète du Val-de-Marne qui a fini par obtenir de la préfecture de région la désignation d'un opérateur social qui est France Terre d'Asile, qui devait accompagner ces jeunes d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue et faire un diagnostic pour regarder où ils en étaient. Alors entre le moment où l'accord de principe a été donné et le moment où l'opération d'évacuation et de mise à l'abri s'est déroulée, il s'est passé encore trop de semaines avec l'hiver qui arrivait, des conditions de vie déplorables, une mise en danger de ces jeunes qui ont décidé provisoirement d'aller s'installer sur la place du Palais Royal et qui sont finalement revenus à Ivry mercredi dernier pour pouvoir être mis à l'abri. Et dans ce cadre-là, la ville d'Ivry a ouvert un de ses gymnases pour permettre à France Terre d'Asile, l'opérateur social, de réaliser son diagnostic dans des conditions meilleures. Et donc nous avons 160 jeunes sur les 292 qui ont été mis à l'abri ce jour-là, qui sont hébergés à Ivry sous la responsabilité de l'État et de son opérateur social qui est France Terre d'Asile. Et j'espère que tous ces jeunes auront une orientation positive puisque notre gymnase est réquisitionné avec notre accord pendant 2 mois.
Alors à chaque élection, l'abstention est très forte partout en France. Vous, à Ivry, vous avez initié une démarche visant à intégrer des citoyens non encartés dans des partis au processus de décision politique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette démarche ?
Alors on s'est retrouvé lors des élections de 2020 dans une situation un petit peu particulière avec une liste, voilà, je vais le dire comme ça, de l'ensemble d'une grande partie des forces de gauche de la France Insoumise, d'Europe Écologie des Verts et du Parti Socialiste, qui étaient ensemble et à qui nous avions proposé une démarche qui était la suivante. Un tiers de représentants du Parti communiste, qui est la couleur du maire, un tiers de représentants des autres forces de gauche et un tiers de citoyens non encartés et surtout désignés par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ce soit des citoyens labellisés par les partis, mais essayer d'ouvrir en grand sur un tiers de la liste et un tiers des positions éligibles et un tiers de l'exécutif municipal qui sera constitué ensuite, de citoyens désignés par les citoyens eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a organisé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, des bureaux de vote dans les quartiers où on faisait un bulletin de vote. Chacun avait le droit de proposer jusqu'à 6 noms de gens engagés dans le quartier, engagés dans le réseau associatif, qu'ils auraient aimé voir au conseil municipal. Et on a réussi à récolter comme ça 145 noms pour un nombre de places évidemment moins important, hein, puisqu'il y avait 49 sièges à pourvoir. Donc quand on fait la division par 3, là j'ai du mal à la faire, mais ça fait presque une quinzaine de citoyens, candidats et potentiellement élus demain. Et donc sur ces 145 noms, on a travaillé avec un collectif d'animation citoyenne pour essayer de trouver les meilleurs profils. Et ensuite, on a réuni une assemblée citoyenne où plusieurs centaines de personnes ont participé d'ailleurs à cette assemblée pour soumettre à l'approbation une liste de citoyens issus de cette désignation citoyenne et des 145 noms qui avaient été proposés. Et alors ça a été une expérience extrêmement riche et c'est une expérience extrêmement riche parce que on ne fonctionne plus comme par le passé avec, je dirais, ce qu'est la tradition dans une gestion municipale, des coups de pression entre groupes politiques, etc., etc. On a vraiment maintenant une assemblée de majorité municipale où tous les représentants des composantes politiques sont présents et où les citoyens sont pleinement, je dirais, acteurs des arbitrages politiques qu'il faut opérer dans la gestion d'une ville comme la nôtre. Et il y a plusieurs d'entre eux, d'ailleurs, et elles, qui sont membres du bureau municipal et qui ont des fonctions d'adjoint et qui mettent concrètement en œuvre les politiques publiques. Donc c'est une expérience qui est un peu en rupture avec ce qu'on faisait jusque-là, en tout cas à Ivry, et qui est extrêmement riche et enthousiasmante, même si l'exigence d'animation que cela engage est très, très importante, mais passionnante.
Merci Philippe Bouissou. Je rappelle que vous êtes maire PCF d'Ivry-sur-Seine. Bonsoir.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.